BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Nous sommes avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Et bonjour.
On va décrypter l'actualité économique évidemment avec nos reporters, nos invités. Au sommaire de ce jeudi 3 novembre, actualité banque ce midi après la Fed hier qui a remonté ses taux de 75 points de base. Et avant la Bank of England, il y a des publications BNP notamment à comment s'en sortent les banques. On va poser la question dans un instant à Aude Kersulek. Des publications dans l'automobile également. Stellantis, BMW, est-ce que les prix vont se mettre à baisser? Enfin, dans les semaines qui viennent, on va poser la question à Justine Vassogne, notre spécialiste automobile. Et puis, ils sont présents dans 5000 magasins en France, fournissent les cantines des collèges, lycées, restaurants d'entreprise. Les fondateurs d'Harry & Co ont pour but de réduire l'élevage intensif particulièrement. Nous recevrons Emmanuel Breyer dans un instant, l'un des cofondateurs. Et puis, à 12h30, comme tous les jours, nous répondrons aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Allez, tout de suite, c'est le journal. Après la Fed hier, qui a donc relevé ses taux de 75 points de base, et avant la Banque d'Angleterre, il y a des publications. Aude Kersulek, vous êtes en direct d'Euronext, BNP Paribas, qui a publié ce matin un trimestre solide, plus 10% par rapport à l'an dernier. Comment la banque profite-t-elle de la hausse des taux de crédit, Aude?
Oui, avec un bénéfice de 2,7 milliards d'euros pour ce trimestre, hein, contre 2,3 attendus par le marché. On bat donc le consensus. BNP Paribas qui progresse notamment dans les activités de marché. Alors, les banques européennes, de manière générale, hein, HSBC, UniCredit, ont annoncé de solides résultats. On attendra Société Générale demain matin avec une hausse, hein, des revenus d'intérêt net parce que les coûts d'emprunt des ménages et des entreprises ont augmenté, hein, avec les hausses des taux directeurs. Plus vite d'ailleurs que les taux d'épargne, même si dans le cas de banques françaises, on est souvent à taux fixe, hein, pour les emprunts, donc ça prend un petit peu plus de temps à se répercuter dans les comptes. Et ces taux de banque centrale, hein, là, ils vont continuer de monter plus haut que ce qu'on avait pu penser auparavant. Ça, c'est pour la Réserve fédérale, ce que nous a dit hier Jérôme Powell, qu'il n'avait pas peur, hein, d'aller plus loin et même trop loin dans le resserrement monétaire, parce qu'au pire, on pourrait toujours faire un peu de soutien économique, avec pour objectif ultime l'inflation, hein, même si ça met du temps à se répandre dans l'économie. Et puis cet après-midi, on aura aussi cette décision de la Banque d'Angleterre qui va opérer un nouveau tour de vis. Elle avait été la première des grandes banques centrales à remonter ses taux, mais elle y allait par petite dose, plus 25, plus 50 points de base. Cette fois-ci, le coup d'accélérateur est donné. Alors les marchés financiers, eux, face à ça, ils subissent quand même un contre-coup aujourd'hui. Sur les marchés obligataires, les taux sont poussés à la hausse. Les actions baissent en revanche aujourd'hui. On s'était fait tout un monde, hein, d'un ralentissement de hausse de taux. On se retrouve bien déçu aujourd'hui. Le CAC 40 baisse de 0,8% à 6227 points, moins 1% pour l'Eurostock 50.
Merci Aude, on vous retrouve dans un petit instant pour faire le point à la mi-journée. Encore une fois, Jean-Marc, vous l'attendez comme à chaque fois, hein, cette
oui,
Banque d'Angleterre.
Oui, pour moi, la Banque d'Angleterre, encore une fois, je prétends qu'elle ne s'est pas trompée depuis 1763, donc je ne vois pas pourquoi elle commencerait à se tromper. Et encore, je suis sévère.
Il y a une très grosse inflation en Angleterre, Jean-Marc.
Oui, alors le problème, c'est qu'elle a annoncé qu'il y a quand même des choses sur lesquelles non possumus. Il y a une partie de l'inflation, c'est le prix du gaz, ça se décide plus à Moscou que dans les couloirs de la Banque d'Angleterre. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Aude, elle a été une des premières à lancer l'opération de remontée des taux, et avec des objectifs de change, d'ailleurs, qu'elle finit par atteindre. Même si on a beaucoup critiqué cette stratégie et considéré qu'elle était assez vaine, en fait, finalement, la livre est stabilisée. Et elle sera peut-être aussi la dernière à monter ses taux. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de banques centrales, je pense à la Banque de Corée, qui a fait des déclarations dans ce sens, je pense à la Banque du Japon aussi, qui ont dit qu'on était peut-être arrivé au niveau. Et donc, ce qu'il y a d'important dans ce que fait la Banque d'Angleterre, c'est qu'elle aura été la première, elle sera peut-être la dernière, encore que, bon, la Réserve fédérale des États-Unis peut encore monter ses taux, mais on est peut-être sur une vague qui est une vague maintenant d'argent qui a été conduite, menée et qui atteint son terme. Puis la dernière remarque que je ferais, c'est que les banques ont fait beaucoup d'argent, ont fait des profits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à leurs prêts, dans la période où les taux d'intérêt étaient très bas, voire négatifs, elles faisaient leurs bénéfices sur leurs dépôts, c'est-à-dire sur leurs clients, c'est-à-dire sur vous et moi. Ouais. Là, elles vont se remettre à faire leurs profits sur les prêts qu'elles consentent, sur le financement de l'économie. Ça me paraît plutôt la preuve qu'on avait besoin de cette remontée des taux.
On va sur ça avec attention de toute façon. Pendant ce temps-là, l'industrie, elle tente de s'adapter à la crise énergétique, alors que les factures d'électricité et de gaz explosent. Certains sites industriels ont décidé de décaler leur production la nuit pour faire baisser les coûts. C'est le cas d'Ascométal et de Setforge, deux usines situées en Moselle que le ministre de l'Industrie est allé visiter hier. Raphaël Couder, vous y étiez, le décalage de la production, c'était inévitable pour ces deux industriels?
Oui, effectivement, et c'est en fait une question de survie pour ces deux entreprises, parce qu'ici, dans ces immenses forges, on travaille l'acier, notamment pour fabriquer des pièces pour l'industrie automobile. Or, pour forger l'acier, il faut le faire chauffer à une température extrêmement élevée, parfois plus de 1200 degrés, et ça, évidemment, ça consomme énormément d'énergie. Ces entreprises, elles sont donc particulièrement exposées face à cette crise actuelle. Chez cette forge, par exemple, la facture d'électricité a été multipliée par 4 en un an. On est passé de 8 millions d'euros en 2021 à plus de 30 millions en 2022. Alors, effectivement, la solution qui a été trouvée, c'est de décaler la production la nuit au moment où l'électricité est moins chère. Concrètement, il y a désormais deux équipes. Une qui travaille de 21h à 5h du matin. Elle est ensuite relayée par une deuxième équipe qui travaille de 5h à 13h. Une nouvelle organisation qui s'est révélée d'ailleurs assez efficace, puisqu'elle a permis de réduire par deux la facture énergétique ces derniers mois. Et c'est bien cela qu'a voulu mettre en avant le ministre de l'Industrie, Roland Lescure.
Merci
L'adaptabilité, le courage, il faut le reconnaître, la volonté, l'inventivité aussi, parce qu'il y a des gens qui ont revu des processus de production pour ça. Ben, moi, je pense que c'est des démarches que j'ai envie de soutenir, effectivement. Bien que ça fait maintenant 4 mois que je suis ministre de l'Industrie. J'ai vu énormément d'entreprises dans des secteurs différents, dans des régions différentes. Mais c'est la première fois que je vois une entreprise qui, collectivement, est prêt à aller jusqu'à une certaine forme de révolution pour s'adapter à la crise.
Voilà Roland Lescure qui a rencontré ce matin les syndicats des deux entreprises. Il s'est voulu rassurant sur le montant de l'aide financière que vont pouvoir percevoir ces deux entreprises en 2023. Mais en attendant, la production nocturne, elle va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année.
Et puis le prix Goncourt est décerné aujourd'hui, remis l'an dernier à Mohamed Mbougar Sarr. Il s'est écoulé à 550 000 exemplaires. Il a été traduit dans 38 langues. Mais cette année, avec l'inflation, de nombreux défis commerciaux se posent pour les éditeurs et pour celui qui remportera le prix. Eva Jaco.
Depuis un an, le prix du papier a augmenté en moyenne de 70% et sans compter la hausse des prix de l'énergie. L'imprimeur du dernier Goncourt constate que la pénurie d'encre s'accroît, comme celle de la pâte à papier. Habituellement, le Goncourt permet à la maison d'édition qui publie l'auteur une moyenne de vente de 300 000 exemplaires. Mais cette année, avec cette inflation persistante, la question du prix de fabrication est cruciale. Comment va-t-on produire un livre pour avoir un prix de revient raisonnable? C'est ce qui inquiète les éditeurs. Il faut alors faire des choix sur le papier utilisé ou la présence ou non de la jaquette, car le brochage coûte cher. Le papier, qui représente d'ordinaire 40% du prix de fabrication d'un livre, a bondi à 60%. Résultat, les prix des livres augmentent. Après une année record l'an dernier, les ventes se sont tassées.
Allez, c'est l'heure de notre focus. Beaucoup d'actualités dans le secteur automobile aujourd'hui avec des publications de résultats. On en parle avec vous, Justine Vassonne, vous êtes notre spécialiste automobile. On commence par Stellantis qui a publié un gros chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, Justine.
Oui, en effet, Sandra, Stellantis annonce un chiffre d'affaires en hausse de 29% au troisième trimestre. Chiffre d'affaires qui s'élève à 42 milliards d'euros. C'est mieux qu'attendu. Stellantis bat le consensus. Le groupe a augmenté ses ventes de 13% au troisième trimestre. Et ça, c'est une indication d'une légère amélioration sur le front des semi-conducteurs, c'est important. On arrive mieux à recevoir les commandes, nous dit Stellantis. Les livraisons progressent, ce qui n'est pas le cas chez tous les constructeurs. Renault, il y a 2 semaines, par exemple, a vu ses ventes reculer de plus de 2%. Livraisons qui reprennent, prix des voitures élevés, effet de change favorable. C'est la recette gagnante pour Stellantis.
Stellantis qui a confirmé ses objectifs annuels, Justine.
Oui, en effet, le groupe vise toujours une marge à deux chiffres pour 2022. Au premier semestre, cette année, je vous le rappelle, le constructeur avait ébloui les analystes avec une marge opérationnelle record de 14,1%. C'est la validation de la stratégie de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Une stratégie de prix élevé, on l'a dit, de réduction des coûts, de synergie. Carlos Tavares, qui est décrit par certains dans le milieu automobile comme un psychopathe de la performance. Et oui, dernière indication, les ventes de voitures électriques de Stellantis qui ont progressé de 41% en un an. C'est la poursuite de la stratégie d'électrification du groupe qui avance comme tous les constructeurs à marche forcée dans le domaine, contraint par les nouvelles législations.
BMW publie également ses résultats pour le troisième trimestre ce matin, Justine.
Oui, des résultats qui sont bons également. Le constructeur allemand voit son bénéfice net augmenter de 23% au troisième trimestre. Ses ventes de voitures ont pourtant stagné. Là aussi, BMW tire son épingle du jeu grâce à des tarifs élevés. Une petite phrase à noter dans le communiqué de BMW ce matin. Le groupe prévient que l'inflation et les hausses des taux d'intérêt entraînent une détérioration des conditions pour les consommateurs, ce qui aura un impact sur leur comportement d'achat au cours des prochains mois. Voilà qui va peut-être contraindre, Sandra, les constructeurs à revoir leur politique de prix élevé.
Oui, justement, est-ce que ça commence à se ressentir dans les faits, Justine ?
Bien, on a quelques signaux, en effet, des signaux faibles, mais qui annoncent peut-être un retournement. Aux États-Unis, on a d'abord cette étude d'un cabinet de recherche, J.D. Power. Le cabinet constate une très légère baisse des prix sur la vente de voitures automobiles neuves. Selon ses calculs, il fallait dépenser en moyenne, accrochez-vous, 46 173 $ pour une voiture neuve au mois de juillet. En octobre, c'était seulement entre guillemets 45 600. Alors les prix aux États-Unis restent encore 33% plus chers qu'avant le début de la pandémie. Ouais. On a encore de la marge. En France, la hausse des prix automobiles commence aussi très légèrement à freiner. Selon l'INSEE, sur les trois derniers mois écoulés, ils n'ont augmenté que de 1,4% sur le seul mois de septembre. Hausse de 0,1% seulement. C'est une quasi-stabilité.
Jean-Marc ?
Oui, ça prouve que d'une certaine façon, les banques centrales ont raison de se poser des questions sur le fait de continuer à augmenter leurs taux parce que l'inflation est peut-être en train de se résorber d'elle-même. Mm. Les prix ont augmenté, je ne pense pas qu'ils se mettent à baisser, on a atteint un certain niveau et donc ce niveau va durer probablement un certain temps. Puis il y a un deuxième facteur qui est en train d'être mis en avant, vous l'avez dit, c'est-à-dire que en face des prix, normalement, il y a une qualité améliorée et donc le véritable enjeu c'est est-ce qu'on va vers des voitures low cost comme ça a été à un certain moment avec Dacia et tout ça en disant en fait le marché automobile sera porté par le low cost ou est-ce qu'au contraire le marché automobile va revenir vers des voitures de qualité et à ce moment-là le prix est justifié, on ne peut plus parler d'inflation, on peut parler simplement d'un effet qualité, on paie plus cher mais quelque chose qui a plus de valeur intrinsèque.
Ce qui est logique. Merci beaucoup Justine Vassogne pour ce focus. Tout de suite l'édito de Jean-Marc.
BFM Business 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, ce midi, vous revenez sur l'Indonésie qui veut se créer ce cartel type OPEP pour les métaux rares. Alors, bonne ou mauvaise idée ?
Alors, je pense que c'est une mauvaise idée et assez paradoxalement, y compris pour l'Indonésie. Alors, c'est évident que c'est une mauvaise idée pour les acheteurs et les consommateurs. Quand on veut créer un cartel, quand on veut créer un monopole, c'est pour pouvoir augmenter les prix. Et il y a la fascination des chocs pétroliers. L'OPEP est créé en 1960. Il faut un certain temps pour que l'OPEP se mette en place. Et puis, dans les années 70, deux chocs pétroliers qui permettent effectivement aux pays membres d'accroître considérablement leurs revenus. D'ailleurs, dans la foulée, il y a une autre organisation qui est créée, qui existe encore, qui est la COPAL, qui est sur les producteurs de cacao, qui est sur un autre secteur. Et il y a à ce moment-là une excitation sur tout un tas de producteurs qui se disent c'est la solution pour transférer une partie des ressources des pays consommateurs, qui sont essentiellement d'ailleurs les pays développés, vers nous. Et puis, il y a eu les contre-chocs pétroliers, et puis l'OPEP, pour continuer à survivre, a été obligé d'augmenter considérablement son nombre de membres. On est passé de 5 initialement à 13, puis maintenant on parle de 23 avec l'OPEP+. Pour les producteurs de cacao, dont on parle moins, mais auxquels je suis assez attaché en tant que consommateur, on est passé de 5 à 10. Et le résultat est toujours le même, c'est-à-dire l'organisation court après effectivement son monopole parce qu'à chaque fois qu'elle augmente les prix, de nouveaux producteurs se disent mais à ce prix-là, ça devient rentable, et donc il y a une sorte de concurrence spontanée qui naît. Et donc, d'une certaine façon, le cartel, lui, il cherchait à avoir des prix élevés s'il y allait nuire au consommateur, donc c'est une mauvaise nouvelle l'existence de ce cartel pour le consommateur, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le producteur, parce que dès qu'il augmente ses prix, il génère de nouveaux producteurs, et il arrive finalement à ne plus être dans la situation d'obtenir ce qu'il cherchait initialement. Et en outre, on regarde ce qui se passe aussi bien à l'OPEP que pour le cacao. Une fois que les pays sont nombreux au sein du cartel, ils se battent entre eux. C'est-à-dire qu'au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite ne veut pas que l'Iran gagne trop d'argent.
Eh oui.
Et au sein du COPAL, sur le cacao, la Côte d'Ivoire ne tient pas à ce que le Ghana gagne énormément d'argent. Et donc finalement, je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux, si l'Indonésie veut gagner beaucoup d'argent avec ses métaux, qu'elle fasse de l'innovation technique dans ses mines, et qu'elle fasse effectivement un effort de recherche qui bénéficiera à elle et à ses consommateurs.
Voilà, Jean-Marc Daniel a tranché, c'est non.
C'est non, c'est non, c'est une mauvaise idée. Si les Indonésiens m'écoutent, c'est non.
C'est terminé. Allez, tout de suite, on fait un point Euronext. Aude, la bourse en baisse à la mi-journée, conséquence de la Fed hier.
Oui, alors moins 0,7% pour le CAC 40 et puis des publications d'entreprises qui sont vraiment différemment accueillies. En fait, on a les publications financières qui montent. On a parlé de BNP Paribas. Eh bien, le titre est en hausse de 2,5%. Et puis AXA aussi, après ses résultats hier, des revenus en données comparables en hausse de 2%. Une belle percée dans la collecte d'actifs. Le titre est à la hausse, hein, plus 2% à 25,64 €. Et puis d'autres entreprises qui ont publié ce matin dans l'industrie et là. C'est un peu la catastrophe, notamment pour Legrand, qui perd quasiment 8% à 71,10 €. Faurecia aussi dans l'automobile, moins 7,3%. Stellantis, vous en avez parlé, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 29%, eh bien, perd 2,8%. Et même BMW du côté de Francfort est aussi à la baisse de quasiment 6%. La peur qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans les communications de ces entreprises, et c'est qu'elles n'arrivent pas forcément à maîtriser leurs coûts de production à cause de l'inflation, et qu'elles s'inquiètent aussi d'un effet sur la demande des consommateurs à terme. On a même un plongeon à signaler, c'est CGG, le parapétrolier, qui perd 28%. Alors c'est un secteur pourtant qui profite de l'envolée des prix de l'énergie, mais CGG qui publie un chiffre d'affaires en dessous de ce qu'il a fait l'an passé, ce qu'il justifie par un décalage des projets de ses clients. Et là, ça ne pardonne pas, donc moins 28,5% pour le titre.
Merci Aude Kersulek. Dans un instant, on va parler de viande, mais pas vraiment de la viande. Ils sont présents dans 5000 magasins en France et fournissent les cantines, les collèges, les restaurants d'entreprise. Les fondateurs d'Ari & Co ont pour but de réduire l'élevage intensif et nous recevons Emmanuel Breyer dans un instant. Restez avec nous.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Notre invité dans 60 minutes business est Emmanuel Breyer, cofondateur d'Ari & Co. Est-ce que vous êtes prêt, Emmanuel Breyer? Parce qu'attention, en face de vous, il y a quelqu'un qui mange de la viande, qui le revendique, il va falloir le convaincre. Ari & Co, c'est donc cette start-up à impact. Vos produits sont faits à base de légumineuses, c'est du végétal. Vous êtes parti d'un constat, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage. L'élevage intensif, vous voulez le réduire?
Exactement. En fait, on sait aujourd'hui qu'on émet trop de CO2. Et en fait, il y a une manière très simple de réduire son empreinte carbone. C'est de limiter sa consommation de viande. Et en fait, je vais rassurer tout le monde. C'est pas contraignant de manger moins de viande. Et c'est ce qu'on veut montrer avec Ari & Co, c'est découvrir une nouvelle cuisine qui est la cuisine végétarienne. Et nous, en effet, on mise sur des légumineuses. On fait des produits comme des galettes, des boulettes, des falafels à base de légumineuses, des produits simples, gourmands, colorés. Voilà, de quoi convaincre tout le monde, tous les amoureux de la bonne cuisine.
Oui, vous êtes très transparent sur la composition de ces produits qui sont effectivement à base de légumineuses. D'où viennent vos produits d'ailleurs?
En fait, alors nous, on a une entreprise qui est basée à Lyon. Voilà, donc capitale de la gastronomie.
Voilà,
on est... Ah oui, il fallait le dire.
On a le porte-drapeau de la cuisine végétarienne qui sera, en fait, on ne se rend pas compte à quel point demain on mangera plus végétarien, mais de manière simple, en fait, par des bons produits. Et vous parliez de nos produits, et nos produits, en fait, viennent principalement de la Drôme. Nous, on a notre usine de production dans
vous
la Drôme.
Vous avez vous-même fait votre...
C'est ça, on a nos propres lignes dans la Drôme. Et aussi, on travaille avec des agriculteurs français qui cultivent les légumineuses. Pour dire brièvement, les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, ces petites graines colorées. Mmh. Et nous, 100% de nos légumineuses viennent de France Et même, on a des partenariats très forts avec des agriculteurs français.
On va en parler, effectivement, Jean-Marc.
Oui, alors justement, dans la région lyonnaise, il y a des crônes, il y a des légumes un peu bizarres. Est-ce que vous vous orientez aussi vers la réhabilitation de ces légumes qui sont dits oubliés? Alors, à un moment donné, on nous avait remis en Bruxelles les topinambours et le rutabaga. Ou est-ce que vous vous dites, finalement, il faut rester sur une gamme de légumes très précise et fournir juste des plats à partir de ces légumes?
Pour l'instant, vraiment, on est focalisé sur les légumineuses. Pourquoi? Parce que les légumineuses, c'est ce qui apporte la bonne protéines dans un régime végétarien. Nous, on fait aussi des plats cuisinés. Hein. On a notamment un dalle de lentilles corail. Donc voilà, légumineuse, c'est vraiment idéal si on veut bien remplacer la viande. Mais après, rien ne nous empêche de nous intéresser à toutes les bonnes choses qu'il y a dans le végétal. Encore une fois, le végétal, c'est s'ouvrir à plein de bonnes choses et il y a plein de choses à découvrir, comme vous le dites.
Vous avez un service de recherche? Vous avez fait de la recherche ou vous êtes un peu sur une gamme de produits que vous faites vivre?
Ah, on développe énormément. Ça, c'est obligatoire. Il faut se réinventer. Il faut proposer de nouvelles choses, de la diversité. Donc, moi-même et mon associé Benoît, on est ingénieur agronome. On a chez nous aussi d'autres ingénieurs. Et on travaille beaucoup avec des chefs aussi. Voilà, des chefs.
Former les chefs à la cuisine végétale.
Exactement, pour le dire, on travaille beaucoup aussi en restauration collective.
On va le dire, donc, ça.
Beaucoup d'enfants mangent nos produits et beaucoup de chefs cuisinent nos produits.
C'est limite du 50-50. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous sortez une nouvelle gamme, grill. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Évidemment, en grill, on pense à la viande, forcément. Mais finalement, Ariane Kuhn, c'est pas forcément, on n'a pas axé sa communication particulièrement sur la viande. C'est ça qui est intéressant par rapport à vos concurrents. Vous emmenez le consommateur vers le végétal sans lui promettre forcément de remplacer un autre produit.
Tout à fait. On pense vraiment que la plupart des consommateurs qui veulent manger moins de viande veulent découvrir une nouvelle cuisine. À titre d'exemple, on a sorti récemment des plats cuisinés individuels et avec de la vraie cuisine végétarienne dedans. On a fait un couscous avec des falafels à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, un dalle de lentilles. Pour nous, c'est très important de travailler avec des vrais produits et faire de la vraie cuisine, et pas seulement de la fausse viande.
C'est toute une éducation, en fait, qu'on doit repenser, évidemment.
Exactement.
Pour baisser l'élevage intensif. Et vous l'avez dit, vous êtes aussi bien présent dans des magasins que dans les cantines scolaires, les collèges, les lycées, la restauration collective. Ça fait partie, c'est une grosse part de votre activité.
C'est ça, à peu près 50-50. Donc on est à peu près en magasin, on est à peu près dans 5000 points de vente en France. Vous pouvez trouver du Ariane Co un peu partout, dans toutes les grandes surfaces. Et on est aussi en restauration collective, qui a été le premier marché pour nous. On s'est dit, bah voilà, là il y a un enjeu très fort, que les nouvelles générations aussi voilà, découvrent cette cuisine végétarienne. Et aujourd'hui, on est présent dans énormément de restaurants, cantines scolaires, restaurants d'entreprise, restaurants universitaires. On peut manger du bon végétal.
Jean-Marc.
Et vis-à-vis de la grande distribution, donc vous êtes présent chez toutes les grandes marques. Et il y a beaucoup de vos collègues, confrères ou concurrents qui se plaignent de l'attitude de la grande distribution en disant qu'elle fait pression sur les prix. Est-ce qu'elle est plutôt bienveillante à votre égard, la grande distribution, en disant que vous avez un produit qui mérite d'être soutenu?
Il y a quand même un bras de fer qui se fait toujours avec la grande distribution. Mais il est vrai que du fait de nos engagements, on est une entreprise assez engagée, sur le végétal, mais aussi sur la filière agricole, et c'est des engagements que aussi veulent apporter les enseignes. Donc on est un petit peu mieux écoutés, je pense. En tout cas, aujourd'hui, on sent, on a été le deuxième contributeur à la croissance du rayon l'année dernière. On sent qu'il y a une dynamique assez forte, en fait, sur Ariane Co. Ils comprennent l'envergure qui est en train de prendre la marque, de végétaliser leur rayon traiteur. Et en effet, on est plutôt content parce qu'on croit quand même bien dans ces enseignes.
En termes de prix, justement, ce sont des produits qui sont un peu plus chers que ce qui se fait par ailleurs dans des produits non végétaux. Est-ce que ces prix ont augmenté dernièrement en raison de l'inflation également? Et est-ce que le consommateur est prêt à payer ce prix justement plus élevé pour consommer mieux?
Donc bien sûr, on subit l'inflation. Vous en avez bien parlé en début d'émission. On subit l'inflation, mais du fait de notre modèle, on essaye de remonter la chaîne de valeur, d'être au plus près des agriculteurs, d'avoir un sourcing court, en fait, et du coup d'avoir quelque chose de bien plus résilient. On évite quand même une partie de l'inflation qui est due aux cours mondiaux des matières premières. Donc c'est vrai que oui, on subit une petite inflation, évidemment, mais qui est moindre par rapport à l'inflation globale. Et ce qui nous permet, voilà, de rester dans la compétition et de rester aussi à la bonne échelle dans le rayon.
Vous travaillez en collaboration avec l'association L214, qu'on connaît, qui met en avant la maltraitance animale notamment. Est-ce que finalement, le but, à la fin, c'est plus dur du tout?
Alors, nous, on a une approche qui est différente. Hein. L214, on ne collabore pas directement avec eux.
Oui.
C'est des gens qui communiquent de leur manière et qui ont fait un travail exceptionnel, en fait, pour communiquer sur ces sujets. Nous, on a une approche bien plus bienveillante, c'est une approche différente, tout simplement. Vous allez voir sur nos réseaux sociaux, on met en avant des bons produits. En fait, on essaye de rassurer les gens. Manger moins de viande ou ne manger plus de viande, ça veut dire continuer à se faire plaisir, ça veut dire avoir quand même des bons aliments. C'est pas contraignant, c'est hyper important d'avoir ce discours-là. Et du coup, on veut avoir un discours optimiste là-dessus, ce qui n'est pas la même approche qu'L214, mais c'est des approches complémentaires.
Jean-Marc, est-ce que vous êtes convaincu ?
Écoutez, oui, je vais essayer.
Je vais goûter.
Ça ne m'empêchera pas de manger une entrecôte de bœuf de bazar.
De temps en temps,
tout à fait.
C'est ça, Jean-Marc.
Et puis avec des serpents de vigne. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, il faut faire preuve de curiosité. Et puis, venir de Lyon tout de suite, c'est une garantie de
qualité. Ça rassure.
Ça, c'est intéressant pour Jean-Marc. Merci beaucoup, Emmanuel Bréhier, cofondateur d'Ari&Co, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 60 Minutes Business. Allez, tout de suite, on accueille Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Vous voyez que ça vous a plu, Jean-Marc, finalement.
Oui.
Allez, le top 3 du web, et on commence par cet article d'Olivier Chiche-Portiche sur les métiers en tension en France, Pierre.
Oui, sujet remis au cœur de l'actualité par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut accorder des titres de séjour aux étrangers qui sont venus en France avec un visa, mais qui sont aujourd'hui en situation irrégulière et qui ont les qualifications requises pour répondre aux besoins des employeurs qui peinent à recruter. Et Olivier revient donc sur ces métiers en tension, en citant notamment les 15 premiers d'entre eux. Alors, je vous propose un petit jeu, Jean-Marc. Alors, c'est pas ni oui ni non, c'est oui ou non.
Ah.
Concentré.
Je me concentre.
Alors, je donne des métiers, vous me dites. Technicien en mécanique et travail des métaux.
Oui.
C'est même le premier sur la liste, bravo. Géomètre.
Non.
Oui. Boulanger.
Non.
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 Charpentier ?
Oui.
Tuyauteur ?
Je sais même pas ce que c'est.
C'est oui. Et alors un dernier ? Journaliste ?
Oh non.
Vous avez raison.
On continue avec le rachat des stocks de Camaïeu, Pierre, par le spécialiste du déstockage Nose.
Oui, stock qui a été vendu aux enchères et sur la vingtaine de participants, c'est donc Nose qui a fait l'offre la plus élevée, 3 800 000 euros pour près de 2 millions de pièces, qui nous fait moins de 2 euros par vêtement ou accessoire. Tous les cartons seront livrés dans les magasins Nose d'ici 15 jours, 3 semaines pour ceux que ça intéresse. Et ces 3 800 000 euros seront répartis entre les créanciers et les salariés de Camaïeu qui doivent toucher une prime de 6 000 euros.
Et puis on finira avec une entreprise qui ne bradera sans doute jamais ses stocks, Pierre. C'est Ferrari.
Eh oui, la marque italienne vient de publier ses résultats trimestriels qui sont excellent. Ferrari annonce avoir livré 3188 voitures dans le monde entre le 1er juillet et le 30 septembre. Ça fait 16% de plus sur un an. Donc c'est colossal. Et la demande est telle que Ferrari est en rupture de stock pour pratiquement tous ses modèles. Je vous demande pas si ça vous déçoit, Jean-Marc, hein, parce que vous allez avoir du mal à en acheter une. Mais est-ce que ça vous étonne ?
Ça ne m'étonne pas vraiment. Je pense que les acheteurs de Ferrari sont de moins en moins en Europe et de plus en plus en Asie. Donc, il faudrait rentrer dans les détails. Ce qui me rassure, c'est que je pense que dans l'indice des prix, l'augmentation potentielle du prix d'une Ferrari, qui sera naturellement la réponse de la marque face à cette augmentation de la demande, ne va pas considérablement faire booster l'indice des prix et l'inflation. Donc, quelque part, c'est pas très grave.
Le luxe se porte bien, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Marc. Merci, Pierre. À demain, dans un instant, BFM avec vous.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le chômage tombe au plus bas dans la zone euro. Il touche 6,6% des actifs en septembre. C'est une baisse de 0,7 points en un an. Mais les menaces sur la croissance risquent de peser sur le marché de l'emploi européen. Christine Lagarde avertit, la récession ne sera pas suffisante pour maîtriser l'inflation. La BCE ne peut se contenter de suivre la Fed, ajoute-t-elle. Alors que la Réserve fédérale des États-Unis a relevé une nouvelle fois ses taux de 0,75 point hier. Dans l'actualité des résultats d'entreprise également, BNP Paribas voit encore son bénéfice bondir, plus 10% au troisième trimestre. La première banque d'Europe a déjà réalisé plus de 8 milliards d'euros de bénéfices depuis le début de l'année. Son produit net bancaire progresse de 5% à plus de 12 milliards d'euros. Tous les métiers du groupe participent à cette performance supérieure aux attentes. Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera l'invité de Guillaume Paul dans Good Evening Business. Dans le secteur de l'automobile, Stellantis dépasse les attentes. Son chiffre d'affaires grimpe de près de 30% au troisième trimestre à plus de 42 milliards d'euros quand les analystes prévoyaient 41. Une activité tirée par la hausse de ses livraisons et la hausse du prix de ses voitures. Et puis BMW augmente son bénéfice net de 23% au troisième trimestre. Au-delà des 3 milliards d'euros, le constructeur allemand bénéficie lui aussi de prix élevés. Veolia signe un contrat avec les Émirats Arabes Unis pour traiter les déchets de l'industrie pétrolière du pays. Accord passé avec le plus grand complexe industriel des Émirats. Aucun chiffre n'est donné pour l'heure, mais selon les estimations, le contrat pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Et puis en Ukraine, la centrale de Zaporijjia complètement déconnectée du réseau électrique après des bombardements russes. La Russie qui veut la raccorder au réseau des zones ukrainiennes sous contrôle pour l'heure. L'alimentation de la centrale repose uniquement sur des générateurs diesel. Et puis les livraisons de céréales qui reprennent depuis les ports ukrainiens. 6 cargos sont partis ce matin. Mais le Kremlin dit ne pas avoir décidé s'il prolongeait l'accord sur les exportations céréalières au-delà du 19 novembre. Tout de suite, le point sur les marchés, la tendance, le CAC dans le rouge, moins 0,73% à 6231 points.
Merci Claire Sergent, votre prochain journal à 15h.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission. Lorraine, nous parlons aux auto-entrepreneurs aujourd'hui.
Et oui, vous avez des questions, on a des réponses. Enfin, la personne qui a précisément des réponses, c'est notre expert du jour, c'est Ludovic Bado. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Merci d'être avec nous, entrepreneur et spécialiste de ce régime auto-entreprise qui génère beaucoup, beaucoup d'interrogations en ce mois de novembre. On commence avec Aurélie. Vous allez voir, ça va vous parler. Elle est vidéaste, elle nous dit que son activité tourne bien. Elle travaille 7 jours sur 7. Bon, elle est entrepreneur, rien de nouveau. Pourtant, elle se tire un salaire qui n'a rien d'extraordinaire. Elle pense que ses tarifs sont trop bas, mais elle n'ose pas les augmenter. Comment fixer ses prix? Comment on peut conseiller les auto-entrepreneurs qui nous écoutent, Ludovic?
Dans la question d'Aurélie, il y a plusieurs choses. Déjà, si elle travaille 7 jours sur 7 et qu'elle n'arrive pas nécessairement, enfin, elle n'arrive pas significativement à s'en sortir et à se tirer un revenu, c'est qu'il y a un problème. Et c'est un problème qui est assez fréquent chez les indépendants, chez les auto-entrepreneurs. C'est de ne pas calculer ses charges, ses coûts de fonctionnement. C'est essentiel de savoir combien va coûter finalement de réaliser la prestation. Parce que quand on réalise une prestation et qu'on facture, ensuite on paye des cotisations, des prélèvement obligatoire, on a des coûts de fonctionnement, des charges qu'il faut régler, et puis aussi on y passe du temps, donc il faut se rémunérer. Donc c'est important de calculer combien nous coûtent finalement toutes ces cotisations et toutes ces charges de fonctionnement. C'est la première étape, être extrêmement rationnel, extrêmement factuel, je veux dire mathématique, pour définir ses prix. Ensuite, bon là, je crois que Aurélie a compris qu'elle ne facturait pas assez cher. Alors comment se positionner? Eh bien, il faut faire une analyse un peu une GI concurrentielle. Ça peut être intéressant d'aller sur des sites de freelance, par exemple, où on a un certain nombre de profils et on peut voir en fonction de l'ancienneté de la personne, en fonction de ses références, combien elle facture par jour, etc. Et donc de chercher à se positionner. Et puis le troisième aspect, je pense, c'est d'oser parler argent, parce que elle dit je n'ose pas augmenter mes prix. Il faut oser parler argent. Moi, j'ai un dicton, si vous avez peur de l'argent, l'argent aura peur de vous. Et le secret, c'est de surtout pas mettre l'argent au cœur de vos négociations. C'est important, mais si c'est trop important pour vous, vous allez positionner l'argent comme un élément de négociation fondamentale et vos compétences et ce que vous êtes capable d'apporter va être trop mis de côté. Donc, il faut faire un travail dessus. Et c'est un sujet qui revient souvent chez les indépendants, c'est d'apprendre à se faire confiance, à pas mettre l'argent au cœur de tout, et à se dire c'est normal que je sois bien payé, c'est normal que je gagne ma vie parce que je vais donner de l'énergie, etc. Et ne pas mettre l'argent donc au cœur de la négociation. Donc relativiser sur cette question d'argent et se concentrer sur ses compétences et sur ce qu'on peut apporter aux clients.
Une question de Marc à présent qui quand même montre son inquiétude sur la trésorerie. Est-ce que demander à un client récurrent de régler la prestation dès la signature du devis plutôt qu'à la fin de la prestation est quelque chose qui se fait?
Alors, c'est pas quelque chose de courant. Généralement, on va réaliser la prestation et ensuite on va facturer et être réglé. Mais quand on est dans une situation où sa trésorerie est, on va dire, un peu en difficulté, ça peut être une solution effectivement sur des clients historiques, des clients avec qui il y a un vrai rapport de confiance, des clients à qui on sait qu'on peut faire cette demande. Ça peut être une solution de dire, bon, bah voilà, ça fait 5, 6, 7, 8 fois qu'on travaille ensemble, ça se passe très bien, on a établi des bonnes relations commerciales. Là, ça m'arrangerait que de pouvoir facturer plus rapidement, et en l'occurrence au début de la prestation. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est possible de faire. Alors attention, avec généralement quand même des clients avec qui on a un historique, avec qui on a une relation de confiance.
Et parce avec que, qui on en a parlé justement peut-être.
Avec qui on en a parlé, parce que le business c'est de la confiance et de la communication. C'est aussi être débrouillard quand on est entrepreneur. Donc effectivement, quand sa trésorerie est en difficulté, ben ça fait partie des pistes, des leviers qu'on peut essayer d'activer pour remonter la pente.
On peut s'inspirer de ce qui se fait beaucoup dans l'univers des freelances en tech, les développeurs qui facturent souvent 50% au devis et 50% à la réalisation de la prestation. Je sais que c'est d'usage dans ce secteur-là.
Oui, effectivement. Bah, c'est les acomptes. C'est les acomptes. Alors, c'est soit 30%, soit 50%. Mais effectivement, c'est une solution.
Alors, on va continuer à parler argent parce que, eh bien oui, c'est le nerf de la guerre. Vous avez entendu, il ne faut pas avoir peur de l'argent, sinon on aura peur de vous. Alors, Valérie nous demande, vous demande, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de proposer une remise à un client en échange d'un paiement rapide?
Alors, c'est aussi là une option quand on a des difficultés de trésorerie. C'est pas une option véritablement que je recommande parce que ça veut dire que vous avez vraiment mis la question de l'argent au cœur de la négociation. Maintenant, si vous avez face à vous un client qui est proche de son argent, pour qui le sujet économique est fondamental et clé, ça peut effectivement être une possibilité. En tant que consommateur, quand on va sur des sites, d'ailleurs, si on prend un abonnement d'un an ou que, vous savez, il y a des formules qui nous permettent de payer moins cher, donc ça peut être aussi sur du B2B une solution de dire, je vous propose une remise si vous me réglez plus rapidement, je pense que c'est quand même une solution qu'il ne faut pas appliquer systématiquement, mais c'est possible.
Attention de ne pas se solder.
Il ne faut pas se solder, effectivement, et il ne faut pas, encore une fois, faire que ça ne soit qu'une question d'argent. Le rôle aussi de l'entrepreneur, qui est aussi un commercial, c'est de mettre ses compétences, son produit, ce qu'il peut apporter à son client au cœur de tout, et de faire en sorte que l'argent soit un élément. Il est important, évidemment, mais qu'il ne soit pas au cœur de tout.
Malgré tout, nos questions aujourd'hui concernent l'argent, évidemment.
Oui, évidemment.
Voilà, Marc nous demande, j'ai entendu dire qu'il était possible d'assurer ses créances avec une assurance crédit pour se couvrir en cas d'impayé. Est-ce comparable à l'affacturage ou au rachat de facture?
Alors, c'est pas comparable, c'est une autre option. On avait parlé effectivement de l'affacturage. Donc là, c'est avance de créance par un établissement financier. Le risque, si vous prenez pas de garantie complémentaire, c'est qu'on vous demande de rembourser si le client finalement ne paye pas l'organisme. Deuxième possibilité, le rachat de facture. Très simple, je vends ma facture, en échange d'une commission, je touche le cash. Et troisième option, effectivement, l'assurance emprunteur. L'assurance crédit, effectivement. Là, en l'occurrence, on va couvrir en cas d'impayé. Et puis, ces plateformes, ces solutions-là vont aussi faire une analyse en temps réel de vos clients pour vous dire, faut être du business avec, c'est pas forcément recommandé. Ce qui est intéressant sur ces solutions-là, c'est qu'elles ont une analyse mondiale. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas que sur les entreprises en France, mais elles vont aussi couvrir vos risques à l'international. Et là, c'est intéressant, mais je veux dire, ça concerne quand même moins les auto-entrepreneurs, parce qu'on est généralement quand même sur des business un peu plus importants, avec une multiplicité des contrats, des deals, qui justifient effectivement d'avoir ce type de solution.
Ah oui, aller faire assurer sa créance quand on est auto-entrepreneur, c'est pas très intuitif. Est-ce qu'il y a un niveau de facture où ça commence à valoir le coup?
Alors, par exemple, je pense à l'une des plateformes les plus connues, Allianz Trade, leur offre de départ commence aux alentours €1 million.
Oui.
Hein. Alors, c'est jusqu'à €2 million, mais en réalité, ça veut dire que si vous êtes dans, faut être dans les montants importants. Et c'est vraiment, ça s'appelle l'offre, je crois, Simplicity, où là, on est sur des offres de début, d'entrée de gamme, et il y a quand même un certain chiffre d'affaires qu'il faut réaliser.
Bon, on a encore quelques questions d'argent, notamment d'impayés. Ça ne concerne pas que les PME, ça concerne aussi les auto-entrepreneurs. François qui nous dit, comment savoir si j'ai un nouveau client, s'il a déjà été sanctionné pour impayé? Est-ce qu'il y a des bases de données où on peut se référer?
Oui, absolument. Vous pouvez effectivement notre auditeur peut se rendre, François peut se rendre effectivement sur le site de la DGCCRF. Vous avez un onglet sanctions et là vous pouvez suivre en temps réel les amendes qui sont données. Alors ça concerne principalement les grandes entreprises et vous voyez en temps réel les amendes qui sont sanctionnées. Ce qu'on peut constater, c'est que cette liste elle est régulièrement mise à jour, ce qui suggère que la DGCCRF est assez active sur le sujet parce que vous avez toutes les semaines des nouvelles entreprises qui sont condamnées avec le montant à régler et c'est très souvent des montants vraiment importants et donc ça peut être une solution effectivement de se rendre sur ce site pour suivre, pour voir si le client qu'on s'apprête à signer n'a pas été sanctionné pour impayé il y a quelques temps.
Olivier nous demande, j'envisage de faire un crédit de trésorerie. Qu'en pensez-vous? Faut-il mieux faire une demande à sa banque ou recommandez-vous un service en ligne?
Alors déjà, crédit de trésorerie, moi je suis pas forcément à l'aise avec ça, parce que si on fait un crédit de trésorerie, ça veut dire qu'on a un besoin en fonds de roulement, il faut vraiment qu'il se justifie. Ou alors ça veut dire qu'on facture pas assez cher, ça veut dire que l'entreprise tourne pas assez, etc. Donc ça peut être, effectivement ça peut justifier s'il y a eu un impayé, donc c'est une mésaventure, et là on a besoin d'un coup de pouce, si vraiment il y a un imprévu. Mais il faut faire attention avec le crédit de trésorerie, parce qu'on n'est pas censé avoir de la trésorerie grâce à du crédit. C'est la première chose. Là, en l'occurrence, si c'est un événement momentané, ça peut être plus judicieux peut-être d'aller voir son banquier pour demander une autorisation de découvert en disant j'ai un impayé par exemple qui va arriver, un règlement qui va arriver, est-ce qu'on peut augmenter l'autorisation de découvert, et au moins on a cette soupape, mais qui est une soupape momentanée, on commence pas à s'endetter avec des logiques de trésorerie à crédit. Sinon, en ce qui concerne les solutions, après ce n'est que mon avis, je pense que les banques traditionnelles sont plus old school sur la partie administrative, il y a plus de papier, il y a plus de formalités, mais vous avez une vraie proximité avec votre conseiller, donc vous pouvez aussi échanger si, je sais pas, il y a eu un impayé ou quelque chose, un incident bancaire, il y a peut-être un an, et votre banquier vous connaît et peut passer outre. Les plateformes 100% en ligne, quoi, ont des algorithmes avec qui vous n'allez pas pouvoir discuter. Donc si vous avez le moindre accroc, vous avez eu la moindre difficulté, je sais pas, moi, une amende que vous n'avez pas payée, par exemple, et du coup, vous avez eu un avis à tiers détenteur. Mais là, vous allez vous retrouver avec un refus. Donc, je recommanderais d'aller d'abord voir son banquier.
Voyez, on vous avait demandé vos questions sur les impayés. C'est la deuxième émission qu'on fait, on zoome sur les impayés. Mais vous avez plein d'autres questions en tant qu'auto-entrepreneur. N'hésitez pas à nous les envoyer. On y répond avec Ludovic Badeau une fois par mois. Et puis, bien sûr, vos difficultés, mais aussi parfois vos succès ou les choses qui marchent bien. Si vous voulez partager vos bonnes pratiques, n'hésitez pas à nous écrire.
Merci Ludovic Badeau d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Dans un instant, BFM avec vous recrute. À tout de suite.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute, et Lorraine, votre premier recruteur est Romain Thévenon.
Oui, c'est le DRH des URSSAF qui est avec nous. On parle souvent de cette caisse nationale, notamment dans nos émissions auto-entreprises. Et aujourd'hui, c'est comme recruteur que vous venez, Romain. Bon, votre boulot, c'est d'assurer la collecte des cotisations avec efficacité et justesse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre des URSSAF?
Alors l'URSSAF, c'est aujourd'hui 16 000 collaborateurs hein, répartis sur l'ensemble du territoire, dont 1900 au sein de l'URSSAF Caisse Nationale, qui est la tête de réseau des URSSAF, qui, ces 16 000 collaborateurs, contribuent quotidiennement au financement de la protection sociale, puisqu'effectivement, notre activité principale, c'est de collecter, puis redistribuer les cotisations et contributions sociales. Alors l'URSSAF, c'est également une diversité de métiers. Hein. Aujourd'hui, c'est près de 130 métiers qui se côtoient sur l'ensemble du réseau. Nous recrutons dans de nombreux domaines, hein. La relation client, l'expertise juridique, évidemment, les systèmes d'information, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, tout un tas de métiers très divers et variés. Et puis, je profite de ma présence hein, sur votre plateau pour dire qu'intégrer l'URSSAF, c'est intégrer une entreprise innovante dans laquelle on peut, et nos salariés peuvent piloter des projets stimulants et d'envergure, hein, puisque, par exemple, nos salariés, s'ils le souhaitent, peuvent, sur leur temps de travail, réfléchir aux solutions de l'URSSAF de demain, aux services de l'URSSAF de demain, dans le cadre d'une démarche d'entrepreneuriat.
Faire évoluer le service, finalement.
Exactement. Ils s'autorisent à le faire et on les accompagne dans cette démarche. Et puis, c'est également pouvoir bénéficier d'un accompagnement RH de bout en bout. Alors aujourd'hui, on parle recrutement, donc dès l'intégration, voilà, avec des parcours d'intégration dédiés, mais également tout au long de leur carrière professionnelle via des mobilités, de la formation également pour développer leurs compétences. Et puis j'en terminerai là, c'est également, on a une attention particulière hein, au sein du réseau des URSSAF sur les sujets de qualité de vie au travail et de conciliation vie privée, vie professionnelle. On vient de signer dernièrement des nouveaux accords sur le travail à distance et le droit à la déconnexion, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Et oui, plus de 90% de vos collaborateurs travaillent à distance, il faut le savoir. Vous êtes localisé dans 13 endroits en France, ça donne une idée de la mission nationale que vous avez sur notre territoire. Et votre job n'est pas facile, Romain, parce que vous recrutez à la fois sur des métiers très technologiques, et des métiers plus traditionnels. Alors parlez-nous de la dimension technologique et des métiers qui sont à pourvoir pour continuer à améliorer les interfaces utilisateurs, notamment de l'URSSAF.
Alors concrètement, effectivement, aujourd'hui, on recrute énormément de profils IT. Alors pourquoi on recrute ces profils IT, hein ? Alors par exemple, on a en cours de recrutement là des experts big data, des experts cybersécurité, des experts automatisation et cloud. Pourquoi on les recrute ? On les recrute parce que maintenant, depuis quelques années, l'URSSAF a opéré un vrai virage technologique avec une transformation numérique justement pour adapter, être au plus proche des besoins de nos usagers, hein, que sont les entreprises, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les particuliers employeurs, et de pouvoir leur proposer en permanence de nouvelles solutions au plus proche de leurs besoins. Aujourd'hui, intégrer la DSI de l'URSSAF, c'est d'abord intégrer un collectif de 1100 salariés. Voilà, vous le disiez, réparti sur 13 sites, 1100 salariés, c'est également aujourd'hui 800 applications qui sont développées en interne, c'est 20 sites web, c'est 470 projets en cours, et c'est des projets qui ont des dimensions plus ou moins importantes, des projets à 50 jours hommes, mais aussi des projets jusqu'à 50 000 jours hommes. Et donc on voit intégrer l'URSSAF et permettre à des salariés de développer leurs compétences au sein de l'URSSAF et de la DSI, c'est leur permettre d'avoir un tremplin sur des sujets d'innovation et de technologie.
On y fait carrière à l'URSSAF ?
Alors, on y fait carrière dans ces métiers, mais on y fait carrière également dans d'autres métiers. On y fait carrière dans des métiers de la statistique. On recrute dans le domaine de la statistique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une base de données issue tous les mois de la déclaration sociale nominative de nos usagers, base de données qui, chaque mois, est traitée, analysée par des experts, des statisticiens, et mise à disposition du grand public, mise à disposition des journalistes, mise à disposition des chercheurs, mise à disposition des start-up. Et ces données, elles sont d'importance. Pourquoi ? Parce que c'est le reflet de la santé de l'économie française. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on les met aussi à disposition de manière large. On peut également y faire carrière dans d'autres domaines. Aujourd'hui, dans le domaine, par exemple, de la finance. On va recruter dans le monde de la finance, c'est sans doute inconnu.
Profil d'auditeurs, d'auditrices.
Exactement, de trésoriers, de personnes qui viennent du monde de la finance, de la banque. Pourquoi ? Parce que les cotisations sociales en France, c'est près de 600 milliards d'euros récoltés chaque année. Et pour assurer une bonne gestion de ces cotisations, eh bien évidemment, il faut des experts en la matière.
Votre enthousiasme est communicatif, en tout cas. Comment on postule, Lorraine ?
Alors, ça se passe évidemment sur le site de l'URSSAF, ursaf.org, mais aussi sur le site de lasécurecrute.fr. Et puis, sur LinkedIn, il faut le dire, l'URSSAF, on épelle tout de même, parce que tout le monde ne sait pas l'écrire. Pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, c'est URSSAF. Vous l'avez entendu, vous êtes en frontal avec beaucoup de recruteurs, notamment des entreprises de la tech, comme notre prochain recruteur.
Merci, Maintenant d'être venu nous voir dans BFM avec vous. On rappelle quand même, juste avant de voir notre deuxième recruteur, que vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, cette adresse aussi avec vous, à bfmbusiness.fr, ce QR code qui vous permet aussi de tomber directement sur notre messagerie. Vincent Guédard est votre deuxième recruteur, Lorraine.
Oui, c'est le cofondateur de Fincom. On parlait des nombreuses interfaces de l'URSSAF, on va parler d'une autre interface, une plateforme de pilotage qui permet aux personnes qui cotisent aux URSSAF et qui payent aux URSSAF de travailler en ligne pour avoir une vision, comme on dit, à 360 degrés. Alors, Vincent, vous avez eu une carrière avant de monter cette start-up. Est-ce que c'est les difficultés que vous aviez à avoir une vision qui vous ont poussé à monter votre propre entreprise ?
Absolument. Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, nous, dans nos vies passées avec l'un de mes associés, Martin, on était donc investisseur en private equity. On a fait le constat de manière assez marquée que les dirigeants et les directeurs financiers de beaucoup d'entreprises passent la majorité de leur temps à construire de la donnée, à la collecter dans différents systèmes, souvent dans des formats hétérogènes, à l'agréger pour ensuite construire des indicateurs de performance et les analyser et les interpréter pour prendre les bonnes décisions de gestion. Et c'est ce constat-là qui nous a poussé à créer Fincom pour développer une solution qui leur permette de passer moins de temps à construire et plus de temps à analyser et interpréter leurs indicateurs.
Alors, vous avez quel type de clients au final ?
Alors, nous, on est très verticalisés aujourd'hui. On adresse essentiellement les éditeurs de logiciels, donc les entreprises SaaS, qui génèrent entre 50 000 et 15 millions d'euros de revenus récurrents annuels. Donc, vraiment les TPE et les PME dans ce domaine.
Vous êtes tout jeune, il faut le dire. Enfin, vous, je ne sais pas, mais en tout cas, votre entreprise, juillet 2021, vous recherchez à grossir. Vous êtes, c'est la magie de la technologie, pour l'instant, un peu moins de 10, et vous cherchez à doubler de taille. Quels sont les postes sur lesquels vous avez urgemment besoin de recruter?
Absolument. Alors, on recrute sur la partie commerciale, sur la fonction commerciale, à la fois pour générer de l'acquisition, mais également du support, puisque notre base de clients ne cesse d'évoluer. Et donc, il faut effectivement être capable d'adresser les enjeux et les problématiques de nos clients. Et on recrute également sur les fonctions marketing, pour les mêmes raisons, se faire connaître et montrer que cette solution existe. Et sur la partie produit, donc, on recrute également des développeurs pour nous accompagner, puisque notre outil évolue tous les jours et on ajoute de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.
Les postes sont basés à Paris ?
Tout à fait. Tout
est basé.
Oui, tous.
Mais il y a une politique de télétravail.
Politique de télétravail très ouverte, absolument.
Vous faites mieux que l'URSSAF. 90% des collaborateurs qui utilisent l'accord de télétravail.
Et 3 jours par semaine.
C'est un bel accord, oui, 3 jours.
Alors, nous, on est très flexible par définition, comme beaucoup de startups. Donc, on est évidemment ouvert au télétravail en fonction des cas.
Vous avez entendu des commerciaux, des développeurs. Un mot peut-être sur votre marque employeur, puisque vous êtes encore une jeune entreprise. On peut y rentrer probablement aussi avec un accès à un plan de BSPCE. Entre autres, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de l'état d'esprit de votre jeune entreprise et pourquoi on aurait envie d'y aller développer ses talents?
Oui. Bah écoutez, les valeurs, je dirais, qu'on met en avant côté Fincom, c'est l'écoute, la bienveillance, la flexibilité, le fait vraiment d'être capable d'intégrer des collaborateurs un peu plus juniors qui peuvent nous accompagner donc sur les fonctions clés de notre activité. On essaie d'être vraiment dans l'interaction, dans un mode de communication très très flexible. C'est l'intérêt aussi de rejoindre une startup, c'est l'agilité qui est afférente à ce type de business. Voilà, on est vraiment très très ouvert et en recherche active de collaborateurs très spécialisés dans leur domaine pour nous aider à construire, donc en tout cas poursuivre la construction de notre produit et de notre solution.
Des stagiaires, des alternants aussi, hein.
Absolument, des stagiaires également et des alternants pour les faire monter en puissance sur nos sujets et accélérer donc le développement.
Notamment ce fameux stage bras droit qui intéresse souvent les étudiants parce que c'est des moyens de voir plein de choses dans une boîte. Le profil idéal pour ce stage bras droit?
Profil idéal, c'est souvent école de commerce ou école d'ingénieur, avec vraiment l'envie de toucher à tout, la volonté de toucher à la fois aux enjeux stratégiques, financiers, produits, marketing, sales. En fait, on touche vraiment à tout dans le cadre de ce stage, et c'est vraiment donc l'intérêt de nous rejoindre sur ce poste.
Comment on postule, Lorraine? Eh bien, vous voyez, vous pouvez écrire directement au patron. C'est Vincent qui vous donne son adresse mail, c'est vincent@fincom.co. Et puis, bien sûr, vous allez retrouver l'ensemble des offres à pourvoir sur le site Welcome to the Jungle, sur le site de Fincom, F-I-N-C-O-M-E. Et puis d'ailleurs, pour les étudiants qui sont à la recherche de stage, sur l'ensemble des sites des écoles et des universités, vous allez retrouver les offres de Fincom.
Merci Vincent Guédard d'être venu nous voir.
Merci.
Merci messieurs. Demain, Lorraine?
Demain, c'est Frédéric Simotel qui vient vous parler des enjeux autour des mots de passe. Figurez-vous que vous nous écrivez beaucoup des petits problèmes informatiques et cyber du quotidien. Demain, on y répond avec notre expert tech, Frédéric Simotel.
Émission à retrouver en podcast et en replay. En attendant, très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.